Écoutez, je propose que nous prions encore et qu'on prépare nos cœurs pour la parole ce matin. Alors inclinons-nous et remettons ce moment devant lui. Oui, Seigneur, ce matin nous sommes là parce que nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom élevé, Seigneur. Nous voulons le bénir à perpétuité. Pour le reste de notre vie et pour toujours, Seigneur. Nous savons que tu es grand, nous savons que tu es digne de toute louange. Ta grandeur est insondable. Seigneur, nous savons que nous sommes qu'une génération parmi tant qui t'ont loué et qui t'ont adoré depuis le début des temps, Seigneur. Qui sait quand tu reviendras? Mais Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer jusqu'à ce jour et encore. Et pour toujours, pour toute l'éternité. Seigneur, tu vois que ce temps n'est pas encore arrivé où tu nous prendras et nous sommes ici sur terre. Seigneur, aide-nous à être tellement remplis de toi, de ta personne, de ta parole, que notre instinct quotidien, Seigneur, c'est d'annoncer autour de nous ta majesté, ta grandeur, ta puissance, ton salut. Que nous puissions honorer le Fils, Jésus-Christ, dans cette ville, à cette époque. Seigneur, nous sommes comme les rois mages ce matin. Nous ne pouvons que nous prosterner devant toi et t'apporter des faibles petits dons. Et peut-être le don le plus précieux que nous pouvons t'offrir, c'est notre louange. Seigneur, encore, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas ce don du salut que tu offres, ô Seigneur, que aujourd'hui soit le jour. Comme un aimant, attire-les à toi. Ouvre leur cœur afin qu'ils puissent voir la splendeur de Jésus-Christ et son sacrifice à Golgotha. Seigneur, utilise le texte maintenant que nous allons parcourir. Pour que nous puissions mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, merci. En ton nom, je prie. Amen. Voilà, ben vous savez, puisque je vais partir, je me suis dit que ce n'était pas le moment de reprendre 1 Timothée. Alors, je sais que ça fait pas mal de semaines que je dis ça, mais quand je reviens, là, vraiment, on va reprendre 1 Timothée et continuer cette étude systématique de cet épître. Alors, ce matin, je voulais recentrer les choses sur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, Jésus-Christ, c'est mon sauveur, c'est le vôtre aussi, j'espère. Et donc, je vous invite à prendre vos Bibles, à les ouvrir à Matthieu 26. Matthieu 26, un message que j'ai intitulé « Agonie à Gethsémané ». Agonie à Gethsémané. Alors, c'est vrai qu'en arrivant à ces versets, Matthieu 26, 36 à 46, c'est vrai que je viens avec une certaine crainte, parce que cet événement est vraiment sacré. Vraiment quelque chose qui devrait nous prendre les tripes. Et c'est ce que j'espère qu'on va pouvoir voir ce matin. Alors, avant de lire le texte, je vais vous parler un petit peu du contexte. Mettons tout ceci en contexte. Nous sommes jeudi soir. Le lendemain, vendredi, Jésus sera crucifié. C'est un jour donc avant sa mort. Il n'a que quelques heures devant lui. Et bien sûr, il le sait. Ce même jour, le jeudi matin, deux disciples étaient allés acheter un agneau pour fêter la Pâque juive. Ils ont préparé le lieu à Jérusalem, où ils prendraient tous le repas. Et puis, ils se sont réunis, ils ont mangé ensemble. Et vous rappelez que c'est pendant ce repas que Judas, le traître, fut dévoilé. Matthieu 26, et le verset 30, nous dit « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Donc, ils terminent leur repas. Et maintenant, ils vont aller à la montagne ou au mont des Oliviers. Donc, ils ont quitté Jérusalem. Ils sont descendus, ils ont traversé la rivière du Kidron et puis ils ont grimpé le flanc ouest de la montagne des Oliviers jusqu'au jardin de Gethsémané. Au verset 31, on apprend qu'ils ont eu une conversation pendant ce voyage. Jésus a prédit lors de cette conversation, vous pouvez lire, on ne va pas regarder maintenant les versets, qu'il allait lui être pour eux tous une occasion de chute. Pierre affirme en termes clairs que si pour les autres l'abandon était envisageable, pour lui c'était une chose impossible. Sur quoi Jésus lui dit que le soir même, donc jeudi soir, avant que le coq chante, Pierre l'aurait renié combien de fois ? Trois fois. Alors il n'est pas encore convaincu, notre ami Pierre, au verset 35, Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et bien sûr, tous les disciples le copient et dirent la même chose. « Impossible pour moi. » Pierre était un petit peu trop confiant et nous connaissons bien sûr le reste de l'histoire. Ils ont tous abandonné le Seigneur à cette heure. Mais pas tout à fait encore. Car ceci nous amène maintenant au verset 26, plutôt verset 36 à 46, que j'aimerais lire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors cette scène tout à fait extraordinaire du jardin de Gethsémané révèle, et c'est ce que j'aimerais souligner ce matin, quatre émotions de Jésus dans sa dernière heure. Quatre émotions de Jésus dans sa dernière heure. Alors c'est tout simple. Numéro un, la tristesse de Jésus. La tristesse de Jésus. Regardez verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Alors, le jardin de Gethsémané, en hébreu, veut simplement dire « pressoir d'huile d'olive ». Et ce jardin était un grand verger d'oliviers dans lequel il y avait un pressoir pour faire de l'huile d'olive. Et quand on y était en juin, ben on était dans ce jardin et on peut voir ces oliviers. Donc, c'est tout à fait… Enfin, je ne sais pas si c'est les mêmes oliviers, probablement d'autres oliviers, mais bien qu'ils vivent très très loin, ces oliviers. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, ils arrivent dans cet endroit… Et il dit aux disciples, à 8 de ses 11 disciples, parce que Judas est parti, de s'asseoir et attendre pendant qu'ils s'éloigneraient pour prier. Le mot prier, c'est vraiment l'idée d'une prière définitive, pas simplement prier, mais prier pour quelque chose de spécifique. Donc il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prend avec lui de ses 11, Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc, c'est en marchant avec les trois autres disciples que sa mine commence à changer. Et le texte est spécifique, il dit bien, il commença à être triste et angoissé. Donc, il marche, les trois disciples sont avec lui, et il commence, avec une grande sobriété, à devenir triste et angoissé. Il devient agité, éprouvant, nous lit le texte, oui, de la tristesse et de l'angoisse. Et au fur et à mesure qu'il marche, cette agitation devient de plus en plus visible aux autres. C'est le commencement de ce qu'il va éprouver pleinement dans quelques instants. Le mot tristesse veut dire affligé, chagriné. Le mot angoisse est intéressant. Le mot angoisse littéralement parle, et ça c'est une émotion que nous avons tous probablement eue. Vous savez, quand on est chez soi, on est bien. D'habitude, d'accord ? Quand vous devez partir de chez vous pendant longtemps, il y a cette angoisse d'être absent de chez soi. Surtout un jour d'hiver, vers les 6-7 heures du soir, il pleut, il y a le brouillard, il y a la neige, il y a le froid. Et vous avez envie d'être chez vous, et vous n'y êtes pas. Il y a cette angoisse d'être séparé de ce lieu où vous voulez être. Et ça, c'est le mot ici décrit. Jésus est angoissé dans le sens qu'il est absent et de plus en plus absent de chez lui, son chez lui céleste. Et ce sentiment d'éloignement, de distance, c'est cette angoisse que ressent Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est en train d'appréhender la suite des événements. Jésus se sent vidé de sa puissance. Et il commence à être écrasé par le poids de ce qui va arriver. Alors, verset 38, il leur dit alors, donc à ses trois disciples maintenant, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Littéralement, il dit « Mon âme est affligée tout autour. » C'est une grande tristesse. En fait, il dit qu'il est triste jusqu'à la mort. Alors c'est intéressant, il faut s'arrêter et réfléchir à ça. Jésus est triste jusqu'à la mort. Alors il sait qu'il est sur le point de mourir et il est en train de le ressentir. Son âme est ce qui anime le corps, l'être intérieur. Et il dit que mon être intérieur est profondément triste jusqu'à en mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà été tellement triste que vous pensiez que vous allez mourir. C'est ce qu'il est en train de ressentir ici. Alors il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Jésus demande aux trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, de les rester là où il les laisse et de veiller avec lui. Alors je pense que Jésus, dans sa dernière heure, cherchait un certain réconfort de savoir qu'il y avait déjà huit des disciples en arrière en train de prier, et là maintenant les trois qui étaient plus proches de lui, il les laisse là, il dit maintenant prie avec moi. Il avait un certain réconfort de savoir que d'autres étaient avec lui, priaient avec lui. C'est dur de passer par une épreuve seule. En fait, je crois que c'est aussi, juste une petite parenthèse, le but d'une église. Le but d'une église est de savoir qu'on peut être les uns et les autres là pour nous aider les uns et les autres quand on passe par des difficultés, quand on passe par l'épreuve. Que ce soit par des gestes tangibles ou que ce soit simplement de savoir qu'on prie pour quelqu'un. N'hésitez pas d'appeler quelqu'un, vous les appelez, vous leur faites un mail, vous leur dites, tu sais, j'ai prié pour toi aujourd'hui. Ça touche les gens de savoir que les gens prient pour eux. Je ferme la parenthèse. Jésus aussi, lui, dans son être intérieur, avait besoin de savoir que d'autres étaient avec lui dans son heure la plus difficile. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette tristesse ? D'où venait cette angoisse ? Eh bien, est-ce que c'était la peur de la douleur physique de la croix ? Il savait qu'il allait le crucifier le lendemain. Est-ce qu'il s'est dit, aïe, 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 j'ai peur des clous ? Alors ça, c'est possible. Mais ce n'est probablement pas cette douleur-là qu'il est en train d'expérimenter. Non, cette angoisse et la tristesse ici venaient du fait d'une sorte de répulsion de son âme sainte, parce que Jésus était parfaitement saint, qui anticipait devenir l'offrande du péché du monde. Alors par exemple, si on trace un petit peu ces instants, dans Jean 10, hein, juste c'est intéressant, dans Jean 10, 17, Jésus a dit ceci, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus dit, voilà, je donne ma vie volontairement. Volontairement. Alors, ça voulait dire quoi, donner sa vie volontairement? Eh bien, dans Matthieu 20, 28, on apprend quelque chose d'autre. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ah ! Donc, c'était pas une mort ordinaire, dans le sens que c'est pas comme si moi je mourais. Sa mort était une rançon. Il payait pour quelque chose. Une rançon, on paye une rançon pour libérer quelqu'un. Et lui est venu pour payer la rançon afin de nous libérer. Nous libérer de quoi? Ah, voici la grande question. Eh bien, 2 Corinthiens 5, 21 nous précise. Parlant de Jésus, Dieu incarné, celui qui n'a point connu le péché, donc il était sans péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ben voilà, nous sommes pécheurs, nous devons nous subir le courroux de Dieu pour notre péché, mais lui a offert sa vie parfaite comme rançon, il a dit, je vais prendre ton péché sur moi et mourir à ta place, et moi en échange, je te donne ma justice, je te donne le pardon, je te donne, oui, le pardon total de tes péchés. Ça, c'est l'échange qu'il y a eu à la croix. Et donc, il est mort en tant que rançon. Mais alors, attention, et c'est ça où c'est incroyable. Dans Galates 3, 13, nous apprenons en plus, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, la loi nous a dit, le salaire de ton péché, c'est la mort. Donc, tu dois mourir, être coupé éternellement de Dieu saint parce que tu es pécheur. Mais lui nous a rachetés de cette malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est dit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Alors non seulement a-t-il pris sur lui notre péché, mais attention, il est devenu malédiction à notre place. Tout le courroux de Dieu qui doit être répandu sur toi et toi et toi et moi pour notre péché, eh bien tout ce courroux a été mis sur Christ. Mais pas que le courroux qui devait tomber sur moi, mais le courroux qui devait tomber sur toi et toi et toi et toi et toi et moi, tout ça ensemble, fou, sur Christ. Et il a été écrasé par le courroux du Père. Je sais pas, j'essaie d'imaginer, c'est comme, vous êtes à la plage, et vous voyez la mer devant vous, à perte de vue. Imaginez un instant que cette mer, c'est le péché, tout le péché de tous les hommes. Jésus se jette dedans pour nous. Il se jette dedans pour nous. Et sa nature sainte réagissait violemment face à une telle épreuve immense. Alors s'est-il posé la question, y a-t-il une autre manière pour accomplir la volonté du Père? Y a-t-il un autre moyen pour sauver les hommes que la croix, que Golgotha? Bien, quelle est la réponse? Non. Il n'y avait pas d'autre moyen. Alors il laisse Pierre, Jacques et Jean prier. C'est pas surprenant parce que Jésus devait souffrir seul. Il était le seul qui pouvait s'offrir pour le péché du monde. C'était un chemin solitaire. Et voilà, mes amis, pourquoi Jésus a ressenti tristesse et angoisse. Parce qu'il savait que dans les minutes, dans les heures à venir, tout le péché du monde allait tomber sur lui et le courroux du Père. Alors ceci mène au deuxième point, la supplication de Jésus. La supplication de Jésus, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Et il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Là, nous arrivons au comble de l'agonie de Jésus. Luc 22, 41, passage parallèle, nous dit que Jésus s'éloigna d'une distance d'environ un jet de pierre. Donc tu prends une pierre et tu la jettes à peu près cette distance. C'est de là où Jésus s'est éloigné de ses trois disciples. Donc il était seul. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il arrive à ce coin solitaire et il se jeta sur sa face. Écoutez, c'est une image frappante. Jésus se met à plat ventre par terre, face contre le sol, et il prie. Est-ce que les disciples avaient déjà vu comme ça? Peut-être qu'ils ne le voient pas, il est loin. Personne n'avait jamais vu comme cela. Et regardez ce qu'il dit. Il ne dit pas tout simplement « Père » lorsqu'il prie. Petite nuance. « Mon Père, mon Père. » Jésus se jette dans les bras du Père et lui demande en quelque sorte « Père, y a-t-il une autre solution que celle-ci ? » Alors, est-ce que ça veut dire qu'il voulait faire marche arrière ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que de toute façon, il dit ici clairement qu'il veut faire la volonté du Père. Dans Jean 12, 27, on lit ceci. « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure ?» Donc, il pense à cette option, il dit « Mais est-ce que je devrais dire, Père, écoute, délivre-moi, s'il te plaît, non, je ne veux pas y aller. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Il dit « Mais non, je suis venu, toute ma venue sur terre est pour cette heure. » Je ne peux pas faire marche arrière, ce n'est pas possible. C'est le but de l'histoire de l'humanité. Cette heure. Et il sait que d'aller jusqu'au bout va glorifier le Père. C'est ce qu'il dit, « Glorifie ton nom. » De ce fait, lorsqu'il prie que cette coupe s'éloigne de moi, il ne demande pas d'être épargné de la croix, non, car c'était la raison d'être de sa venue. Non, je pense que sa prière est une sorte de question rhétorique. Elle n'était pas là pour susciter une réponse de la part du Père, mais plutôt pour nous apprendre quelque chose. En fait, il disait ceci. Père, mon Père, s'il y a une autre manière par laquelle les pécheurs peuvent être sauvés autre que par mon sacrifice à la croix, s'il te plaît, montre-le maintenant. Révèle-le maintenant. Mais dans tout ceci, Père, je veux qu'il soit su que je ne souhaite qu'une chose, faire ta volonté et rien d'autre. Et quelle était la volonté du Père? Eh bien, Galates 1,4, Jésus s'étant donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. La volonté du Père, c'est que son Fils donne sa vie comme rançon pour les hommes, afin que lui meure à notre place et nous pardonne ainsi notre péché à ceux qui croyons en lui. C'est aussi simple que ça. Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Voilà la volonté du Père. Le Fils, il l'a offert comme rançon. Ton option, c'est de regarder au Fils, c'est ce qu'il dit. Quiconque voit le Fils et croit en lui, tu as l'option de regarder à Christ et de croire en Christ, et ainsi tu recevras la vie éternelle. Pourquoi? Parce que lui a été ta rançon. Il faut croire. Il faut le vouloir. C'est pour ça que ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à croire. Il faut vouloir. Il faut comprendre qui est Christ. Et il faut comprendre la nature de ce qu'il a fait et sa résurrection. Où il a donc bien sûr vaincu la mort et vaincu le péché, mes amis. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Alors bien sûr, Jésus connaissait parfaitement la volonté du Père. C'est intéressant, petit point, on ne va pas développer, on n'a pas le temps, mais dans Matthieu 26 encore, verset 54. Alors vous savez qu'à un moment donné, Jésus, donc après cette scène, il se fait arrêter dans le jardin. Judas le trahit. Alors Pierre, bien sûr, il est assez impulsif. Il sort son épée parce qu'il veut défendre Jésus. Et verset 52, Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » C'est intéressant de noter quand même que Pierre était armé. Hein? Je trouve ça assez amusant quand même pour les pacifistes. Pierre, il était armé jusqu'au dans les films, on ne voit jamais ça, mais ils avaient leurs épées, leurs couteaux, leurs poignards. Quoi. C'était des gens armés. Et ensuite, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père et qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Tu sais, Pierre, écoute, ton épée, c'est vraiment la rigolade. Moi, je peux faire, tac, et j'ai 12 légions d'anges. Mais il ne l'a pas fait, Jésus. Pourquoi? Verset 54, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquels il doit être ainsi. Jésus savait en plus qu'il était là pour accomplir toutes les plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament à son égard. Il savait qu'il était appelé à accomplir les prophéties. Et mes amis, si vous êtes incrédules, si vous avez des questions par rapport à la foi, étudiez les prophéties. Parce que alors là, mes amis, là, vous serez époustouflés. 800 ans avant la venue de Jésus-Christ, il y a des prophéties absolument époustouflantes par rapport à la venue du Messie. Et Jésus le dit clairement, je dois les accomplir. Alors c'est vrai que Jésus ici demande, en priant le Seigneur, en priant son Père, est-ce qu'il est possible d'éviter la croix à l'intérieur des paramètres de sa volonté rédemptrice ? Et la réponse est non. Il n'y a pas d'autre option que la croix. Et Jésus devait passer par la croix. Et alors Jésus prend la coupe. Il dit, mon Père, dois-je la boire ? Alors c'est quoi cette coupe ? Alors ça c'est le troisième point en fait. L'agonie de Jésus. Regardez au verset 39, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, cette coupe. » Ésaïe 51:17 nous en parle. « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. » Qui a bu, sucé jusqu'à la coupe d'étourdissement. Jérémie 25, 15 décrit cette coupe comme étant une coupe remplie du vin de ma colère. Jésus, en parlant de la coupe, parle d'un symbole ancien testamentaire de la colère de Dieu. Alors, c'est comme s'il prend cette coupe dans ses mains et il dit, Seigneur, dois-je la boire ? Seigneur, y a-t-il un autre moyen ? Et connaissant la réponse, même s'il prie trois fois, Jésus prend cette coupe et il boit. Et il boit encore, et il boit encore la coupe de la colère de Dieu. À plus forte raison donc, Romains 5, 9. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? Mes amis, c'est moi qui aurais dû boire cette coupe. C'est moi. Mais il l'a bu à ma place. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mon ami, si tu n'as pas cru en Christ aujourd'hui, tu es en train de boire toi-même la coupe. Jésus te dit, mais écoute, c'est bête. Je l'ai déjà bu pour toi. C'est insensé, mes amis, de mourir sans Christ. C'est insensé de mourir avec la colère de Dieu sur toi, sachant que le Fils de Dieu a déjà bu la coupe. Pourquoi la boirais-tu ? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Si tu es dans l'iniquité, ce qui est le cas pour tous les hommes, eh bien, la colère de Dieu est révélée contre toi. Le choix est simple. Tu subis la colère ou tu acceptes la rançon qui a été payée pour toi. Car Christ a bu cette colère à ta place. Franchement, je ne sais pas comment le dire d'une autre manière que ça. Et alors, il a bu, et il a bu, et il a bu. Alors, parlons un petit peu plus de cette colère que lui a ressentie. Là, on rentre dans un domaine théologiquement que j'ai de la peine à décrire, mais c'est quand même incroyable. Alors, concentrons-nous. Allez avec moi à Matthieu 27, verset 46. 27, 46. Alors, Jésus est sur la croix, cloué. Il est crucifié. Regardez ce qui se passe. Verset 46. Et vers la 9e heure, on va reculer au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Surtout au milieu de la journée, Jésus est crucifié. Et pendant 3 heures de temps, tout d'un coup, tout devient nuit. Et vers la neuvième heure, 3 heures de l'après-midi, donc c'est entre midi et 3 heures de l'après-midi. À 3 heures de l'après-midi, à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Eli, Eli, lama sabachthani !» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? À cet instant historique? Eh bien, ce que nous savons, c'est que pendant ce temps, c'est à ce moment-là précis, que Jésus, selon 2 Corinthiens 5, 21, est devenu péché pour nous. Il n'a jamais péché, mais c'est à ce moment-là, cet instant-là, que le péché du monde s'est compressé sur lui. C'est à ce moment-là, selon Ésaïe 53, qu'il a été blessé pour nos transgressions. Et c'est à ce moment-là, cet instant-là, Galates 3, 13, qu'il est devenu une malédiction pour nous. Et en fait, lorsqu'il crie, il cite le psaume 22. Et c'est très intéressant. Dans le jardin, il avait prié comment ? Mon Père. Mais regardez ce qu'il dit dans Matthieu 27, 46. Lorsqu'il est sur la croix, et là, l'instant même où il devient péché pour nous, il ne dit pas mon Père, il dit mon Dieu et mon Dieu. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il a pris sur lui le péché de nous tous, d'une manière indescriptible, Dieu, pendant ces quelques instants, a tourné le dos à son Fils. Et Dieu, d'une manière inexplicable, a abandonné son Fils. C'est ce que Jésus dit. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu un abandon. Et c'est d'autant plus extraordinaire que Jésus avait passé l'éternité avec son Père dans les cieux. Et là, pendant ces quelques instants, séparation. Comment est-ce possible? Comment on comprend ça? J'en sais rien. Même Martin Luther, vous savez, celui qui a commencé la réforme en 1517, il est dit qu'il est allé en isolement pendant longtemps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre cet abandon, cette séparation entre le Père et le Fils. Et il est revenu aussi confus que lorsqu'il est allé réfléchir sur ça. J'en suis un petit peu au même endroit. C'est dur de comprendre. Et pourtant, c'est ce que Jésus dit. C'est un mystère total. Où le Fils de Dieu est séparé de son Père. Où il reçoit toute la colère, toute la fureur, tout le courroux de Dieu qui est répandu de toutes ses forces sur le Fils. Au point où il crie, et il crie, et il crie fort. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous, Habacuc 1.13 nous dit de Dieu le Père, tes yeux sont trop purs pour voir le péché. Une fois que Christ avait pris le péché de l'humanité sur lui, Dieu ne pouvait plus le regarder, coupé. Alors, la nature de cet abandon, je ne sais pas. Jean 17, 24, Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc c'est intéressant, avant même que le monde existe, Jésus et le Père étaient ensemble. Ils étaient dans la même gloire. Dans le jardin de Gethsémané, il prie 3 fois, mon Père, mon Père, mon Père. Donc il a une relation avec le Père, encore. Et il a dit au brigand sur la croix, écoute, crois en moi et aujourd'hui tu seras avec moi où? Dans le paradis. Donc on sait très bien qu'il est encore dans l'éternité. Aujourd'hui la Bible nous dit, Hébreux 9, qu'il prie pour nous. Donc Jésus est auprès du Père. Donc il a été toujours auprès du Père, il sera toujours auprès du Père, il était auprès du Père et à un moment donné, il y a eu un abandon. Comment comprendre? Je ne sais pas. Bon, j'ai une petite illustration. Quand on a eu notre premier enfant, John William, il était bébé, il avait un petit problème qu'ils ont dû opérer, c'était rien de grave. Et je me rappelle très bien, donc on était nouveaux parents, je ne me rappelle plus quel âge il avait, moins d'1 an. Et alors on était à l'hôpital, et alors là, on angoissait, mais à fond quoi. Hein. Et finalement, alors les médecins, on était à Paris, les médecins sont venus, et c'était le moment où on devait abandonner notre fils à ces médecins en robe blanche qu'on ne connaissait pas, vraiment. Et ils devaient prendre John William et revenir quelques heures plus tard pour nous dire comment les choses s'étaient passées. Bon, moi, je suis le papa, probablement beaucoup moins sensible qu'une maman. Meg, c'était la catastrophe, quoi. De donner votre bébé comme ça, vous savez qu'il va être opéré, des gens que vous ne connaissez pas, et vous devez attendre 4 heures. Alors ce petit sentiment d'angoisse qu'un parent peut ressentir vis-à-vis d'un bébé qui est lâché pendant quelques heures, imaginez l'angoisse de Jésus vis-à-vis de son père. Ce sentiment de séparation et de colère et de courroux. Alors mes amis, dans le jardin, les choses étaient tellement dramatiques. Allez avec moi encore à Luc 22. C'est des choses incroyables. Regardez, Luc 22. Cette agonie que Jésus a ressentie était d'autant plus frappante que Luc, qui est médecin, décrit ce qui s'est passé. On est Luc 22, verset 43. Bon alors, verset 40, et de nouveau, ils arrivent dans ce lieu. « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Verset 41, puis il s'éloigna d'eux à une distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Mais attendez, voir, arrêtez-vous là. Il est là, en train de prier dans l'agonie, « Seigneur, écoute, si tu peux trouver une autre solution, s'il te plaît, permets-moi de peut-être ne pas boire cette coupe. » L'angoisse est due être telle que le Père a dit, bon, là, il lui faut de l'aide. Les disciples qui prient dans le jardin, ça ne fait pas l'affaire. Bon, il faut un ange maintenant. Et un ange apparaît, c'est ce qu'il a dit. Un ange lui apparaît du ciel, pourquoi? Pour le fortifier. Oui, le Fils de Dieu avait besoin d'être fortifié. Mais regardez, ça continue verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. Donc, est-ce que l'ange était encore à côté de lui? J'en sais rien, mais on a l'impression. Et donc, il prie encore plus. Et regardez, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il sue et il saigne en même temps. Ça s'appelle l'hématidrose, une condition très rare où des personnes peuvent suer du sang. Cette condition peut avoir lieu lorsqu'une personne subit des niveaux extrêmes de stress, comme par exemple faire face à sa propre mort. Le stress peut être si intense que les capillaires subcutanés se dilatent tellement qu'ils finissent par éclater sous la peau. Et lorsqu'ils éclatent à proximité des glandes de sueur. De ce fait, la sueur mélangée de sang sécrète ensemble de la peau, parfois sur une grande partie du corps. Et ce mélange de sang et de sueur produit des grumeaux épais d'une couleur rougeâtre et ces gouttes tombent par terre. Imaginez à quoi ressemblait Jésus. Ça n'a vraiment pas dû être beau à voir. Et Matthieu 26, 40. Maintenant, il revient aux disciples et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis. Ah, le contraste. Jésus crie. Jésus prie. Jésus sue. Jésus saigne. Ils lui font un ange pour le fortifier. Et là, les disciples, ils dorment. Vous savez, l'esprit est bien disposé, n'est-ce pas? Mais la chair est faible. Et moi, je ne vais pas les condamner trop fort, les disciples. Parce que moi, je me suis dit, John, combien de fois est-ce que toi, tu as fait exactement la même chose? Oh, mon esprit était bien disposé d'aller prier ou de prier. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Combien de vous, vous êtes déjà endormis en priant? Ben, moi, je lève la mienne. Moi, je me suis déjà endormi en priant, mes amis, bien sûr. Bon, on camoufle bien quand on est pasteur, vous savez. Oh, on est tellement humain. Et je crois que là, il met en contraste d'autant plus l'œuvre de Christ. Alors, verset 42, il s'éloigna une seconde fois. Et il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Pourquoi? Ils venaient de faire un grand repas, ils avaient marché de Jérusalem, vallée de la Kidron jusqu'en haut, ils étaient fatigués, quoi. Fatigués, ils avaient trop mangé, hein. C'était le grand repas. Et là, maintenant, on arrive au quatrième et dernier point, la soumission de Jésus, verset 44. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Écoutez, Jésus crie et il crie, et il supplie, et il sue et il saigne. Et Dieu répond par un immense, bruyant silence. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, verset 45, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » C'était l'heure la plus difficile, l'anticipation de ce qu'il allait subir le lendemain sur la croix. Trois fois il a prié, trois fois il a demandé au Père, « Père, y a-t-il un autre moyen ? Y a-t-il un autre moyen de pouvoir le pardon des péchés des hommes ?» La réponse est quoi ? Non. Mon ami, il n'y a aucun autre moyen. Aucun. C'est pour ça que Acte 4, 12 nous dit ceci, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est clair, je pense, maintenant, non ? Comment réagir ? Comment réagir ? Moi, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Je ne sais pas où tu en es avec Jésus-Christ. Si je te posais cette question, qu'est-ce que tu répondrais ? Si tu mourais ce soir, est-ce que tu es absolument certain, sans aucun doute, que tu passerais l'éternité dans la présence de Dieu ? Si tu me posais cette question, moi je répondrais oui, je sais. Tu dis, mais c'est pas un peu gonflé, John ? Tu peux vraiment dire ça ? Que tu sais vraiment ? Oui. C'est gonflé ? Non. C'est biblique. Dans 1 Jean 5, 13, il est dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Écoutez, je sais. La Bible me dit que je peux savoir. Alors comment est-ce que je sais ? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mes amis, c'est ça. Tu peux savoir que tu as la vie éternelle parce que tu peux savoir que tes péchés ont été pardonnés parce que tu sais que Christ a été ta rançon. Il a pris sur lui ton péché. Il a été d'accord d'aller à Golgotha pour toi. Et moi, le 4 novembre 1976, à New Delhi, en Inde, Dieu a ouvert mon cœur. Et j'ai dit, oui, Jésus-Christ, je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es ma rançon. Aujourd'hui, je te demande de devenir mon sauveur et mon Seigneur. Et de me pardonner tous mes péchés. Et il l'a fait, sur le champ, instantanément. Et il m'a donné la vie éternelle. Et toi aussi. Inclinons-nous. Seigneur, nous sommes émerveillés devant cette scène époustouflante. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous étions comme les disciples. Insensible à ton œuvre, à ton angoisse, à ton sacrifice, endormi. Oh Seigneur, nous devrions être à côté de toi, Seigneur, à plat ventre, te louer, te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas Christ, oh je te le supplie du fin fond de mon cœur. Révèle-toi eux, Seigneur. Montre-leur qu'il n'y a rien à craindre. Ils n'ont pas à avoir peur. Tu les aimes, Seigneur. Tu les aimes profondément. Tu as fait ça pour eux. Seigneur, je te supplie qu'ils cèdent leur volonté à ton amour. Oh Seigneur, mets en nous du zèle, mets en nous un amour grandissant pour toi, Seigneur. Que notre nourriture soit vraiment de faire ta volonté, rien d'autre. Oh Seigneur, je te le supplie. Pour ceux parmi nous aujourd'hui qui peut-être sont des chrétiens, mais qui ont un petit peu déraillé, Seigneur, vivent dans le péché, ils savent qu'ils ont des vies qui te déplaisent, oh, qu'ils puissent amener tout leur fardeau à toi, Seigneur, tu les pardonnes. Tu leur dis, donne-moi tout, donne-moi ton péché. Repends-toi, Seigneur, je te prie qu'ils aient le courage de tout donner à Christ. Seigneur, nous t'aimons et nous te louons et nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen.